but c'est de retrouver le pouvoir. Il faut savoir qu'à partir du moment où Mao Zedong est arrivé au pouvoir en 1949, il n'a pas cessé d'attaquer les diverses classes sociales. Il a commencé par s'attaquer aux propriétaires terriens au moment où il a fait la redistribution des terres. Il s'est attaqué à ce qu'il a appelé les patrons capitalistes lorsqu'il a privatisé les entreprises. En 1957, en lançant le mouvement des sans-fleurs, il s'est attaqué aux intellectuels et il a en quelque sorte décimé tout ce que la Chine avait de meilleur, comme grand savant, grand littéraire, un célèbre démographe. Et le concept d'intellectuel était très large. C'était quelqu'un, en gros, qui avait fait des études jusqu'à la fin du lycée. Ce n'étaient pas nécessairement des très grands intellectuels, mais des gens qui avaient exprimé des opinions critiques, notamment par rapport à la bureaucratie du Parti communiste chinois. Donc ce n'était pas nécessairement des critiques fondamentales, ce n'était pas nécessairement un désir de renverser le parti, mais simplement de le réformer. Donc, à l'issue de ce mouvement, ce sont les intellectuels qui ont été envoyés en masse, par centaines de milliers, dans des camps de rééducation par le travail ou de réforme par le travail. Ensuite, il y a eu le grand bond en avant. Alors là, ça a terriblement pénalisé toute la classe paysanne. Il y a eu entre 30 et 40 millions de morts de faim. Donc, c'est vraiment pas un détail de l'histoire. Et à l'issue de cette catastrophe humaine, le président Liu Shaoqi, à l'époque, Mao Zedong était secrétaire général du parti, mais pas président de la République, a émis quelques critiques à l'égard de Mao Zedong, et d'autres ont suivi, Peng Dehuai, d'autres grands dirigeants de la Chine, et c'est contre cette fronde-là, cette nouvelle fronde-là, que le président Mao a lancé la révolution culturelle, pensant de cette façon-là récupérer tout le pouvoir pour lui. Et de fait, c'est ce qui s'est passé les 10 dernières années de sa vie, c'est-à-dire de 1966 à 1976, sont entièrement dominées par la personnalité de Mao sur l'ensemble du territoire chinois.
Comment il s'y est pris pour verrouiller le Parti communiste ?
On est impressionné par les capacités tactiques et quelque part psychologiques du président Mao, même si c'est pour faire le mal. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé par lancer les jeunes contre, je dirais, les moins jeunes, c'est-à-dire les professeurs, les instituteurs, tout ce qui représentait un petit peu l'épine dorsale du pays, en leur disant qu'ils étaient le soleil de 9h du matin, c'est-à-dire le soleil qui allait illuminer toute la journée, alors que les personnes plus âgées étaient le soleil de midi, ou alors au contraire, la lune de 22h. Il leur a dit que les jeunes avaient raison, que l'avenir leur appartenait, et que c'était donc à eux de développer, de conduire la révolution jusque dans les moindres recoins. Vous imaginez ce que ce genre de déclaration peut faire sur des esprits adolescents qui sont évidemment en pleine révolte, révolte contre les parents, les professeurs, la société, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc le feu a pris comme un feu de paille en deux temps, trois mouvements. Les gardes rouges sont sortis dans la rue, dans les écoles, dans les cours, dans les bureaux, et ont commencé à agresser tous ceux qui, selon eux, ne respectaient pas la pensée de Mao, c'est-à-dire tous ceux qui, peut-être, voulaient un peu de discipline, tous ceux qui voulaient qu'on apprenne par cœur les dates, les dynasties impériales, enfin, n'importe quoi. Et on les a aussi encouragés à détruire ce qu'on appelait les quatre vieilleries, c'est-à-dire les vieilles traditions, les religions, les superstitions, bref, tout ce qui faisait le terreau culturel de la Chine. Donc cette frénésie de destruction, heureusement, n'a pas duré trop longtemps. C'est grosso modo de 1966 à 1968-69. Mais malgré tout, la révolution culturelle, c'est-à-dire cet état hautement politisé d'extrême gauche, on dirait chez nous, ici en France, s'est maintenu pendant une dizaine d'années.
On imagine aussi une période de délation. Est-ce qu'on en ressent encore les effets aujourd'hui ?
La révolution culturelle, c'est vraiment un paroxysme de paranoïa, de surveillance tous azimuts. Par exemple, la justice est complètement épétée. Il n'y a plus d'avocats, de cours pénales, il n'y a plus que des tribunaux du peuple. Donc vous imaginez ce qu'un tribunal du peuple peut faire comme dégâts. Hein. Il suffit de faire circuler quelques rumeurs, d'échauffer les esprits, et puis on se venge sur un peu n'importe qui. Et ensuite, il y avait aussi un contrôle social systématique, c'est-à-dire qu'il y a des comités révolutionnaires qui sont nés dans tous les quartiers. Donc la Chine était totalement quadrillée par ce contrôle qui permettait de savoir à tout moment qui faisait quoi, allait où, fréquentait qui, dormait chez qui. Ça, c'était considéré comme un crime très grave de découcher, etc. Donc la liberté de simple mouvement, d'aller par exemple passer des vacances chez ses parents s'ils étaient dans une autre ville, était très très contrôlée. On n'en est plus là. Hein. La liberté de mouvement maintenant est à peu près totale sur le territoire chinois. Les gens épousent qui ils veulent, dorment avec qui ils veulent, choisissent leur travail, etc. Donc on n'est pas dans le même état d'esprit, mais malgré tout, le Parti communiste chinois reste le seul parti et le seul gouvernement, puisque c'est un parti-État, en place et continue à imposer sa vision des choses, sa discipline, ses lois et ses sanctions.
50 ans, c'est finalement rien du tout. Est-ce que les personnes qui ont aujourd'hui 60, 70 ans et plus en parlent ?
Je dirais que le problème en Chine, c'est justement la liberté de parole. On n'a pas la liberté de parole. Donc oui, on parlera de la révolution culturelle, mais il faut aussi en parler comme le parti l'autorise. Donc comme la personnalité de Mao n'a pas été renversée, n'a pas été critiquée, il n'y a pas eu de retournement anti-stalinien en Chine. Au contraire, le visage de Mao continue à apparaître sur tous les billets de banque. Son portrait est toujours sur la place Tiananmen. Pourquoi ? Parce que, étant donné que c'est toujours le même parti, c'est très difficile de se décrédibiliser soi-même en disant que son ancêtre politique, Mao Zedong, s'est trompé, était un sanguinaire criminel, etc. Ça entache en quelque sorte le propre socle sur lequel vous êtes assis. Et c'est pour ça Xi Jinping, en ce moment, l'actuel président de la République populaire de Chine, joue un jeu qui me semble très dangereux, en non pas réveillant les démons de la révolution culturelle, mais en y apportant une espèce de lumière un peu tendre, un peu nostalgique. Voilà, on était jeunes, on chantait des chants révolutionnaires, ils étaient très beaux, ils étaient très émouvants, on était tous habillés pareil, on était égalitaristes. En quelque sorte, c'était le bon vieux temps. Cette tendance-là est très dangereuse.
Et pourtant, c'est incroyable, puisque Xi Jinping et son père, qui était président, ont fait partie de ces gens envoyés à la campagne de force par Mao. On a l'impression qu'aujourd'hui, Xi Jinping a tiré les leçons politiques de cette sombre époque.
Vous avez raison. Xi Jinping a été vraiment une victime. Son père, surtout. Son père a été renvoyé travailler dans une région très pauvre et toute la famille a dû suivre et a beaucoup souffert. Donc là, il y a effectivement un phénomène psychologique que tout le monde en ce moment essaye de comprendre et d'étudier. Et certains disent que Xi Jinping est en train d'essayer de faire revivre plutôt la période des années 50, c'est-à-dire celle où il y avait cette discipline communiste, il y avait cet idéal communiste, et pas vraiment l'hystérie de la révolution culturelle. Mais peu importe, je dirais que Xi Jinping a pris ses leçons pendant la révolution culturelle. C'est là qu'il a eu ses premiers cours de politique, en quelque sorte. Et ses cours de politique, c'était que le pouvoir devait être maintenu à tout prix, qu'il fait partie de cette élite communiste qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et que d'aucune façon, il faut permettre à la population, à ses pairs, à ses égaux, de s'emparer du pouvoir contre son gré.
Et pour revenir à l'héritage culturel, il a été vraiment mutilé. Quelles sont les répercussions que ça a aujourd'hui ?
Je dirais que les conséquences ont été désastreuses et continuent à faire de l'effet aujourd'hui, comme font de l'effet les traumatismes lorsque, au lieu d'être exprimés et évacués, ces traumatismes sont étouffés et en quelque sorte provoquent des distorsions de la personnalité. En quelque sorte, on peut comparer ce que les Allemands ont fait en expiant constamment la période nazie et ce que les Chinois n'ont pas fait en expiant la période de la révolution culturelle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait toujours pas combien il y a eu de morts. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de dédommagement pour les familles qui ont perdu un père, une mère, un enfant. Tout cela est toujours caché sous un voile comme ça qui protège un peu le parti. Mais les conséquences sont désastreuses. On connaît la littérature russe, la littérature japonaise, etc. Que connaît-on de la littérature chinoise ? Très peu. On a un prix Nobel de littérature moyenne. Mais est-ce qu'il a franchi la barrière de l'universalité ? À mon avis, non. La créativité se voit à l'extérieur. Dans la diaspora, une fois que les Chinois ont retrouvé leur liberté de penser et de s'exprimer, ils redeviennent créatifs et originaux. Mais en Chine, cette créativité, cette originalité a été détruite. Plus grave encore, les bases de la moralité chinoise, qui sont le confucianisme, dont on peut dire du mal, mais peu importe, c'était quand même une morale et une façon de tenir les gens dans leurs relations interpersonnelles, familiales, etc. Aujourd'hui, la seule morale qui prime, c'est gagner de l'argent. Et c'est réellement la seule préoccupation. Bien sûr, pas de tous les individus, mais des grands courants de la société. Je crois que la réaction qu'on peut observer, quelque part, c'est les conversions massives au christianisme. Beaucoup de Chinois se disent qu'il leur manque quelque chose.